L'éducation sentimentale, deuxième partie, suite du chapitre 4. D'autres difficultés surgirent, car le choix des armes, légalement, appartenait à Sisi, l'offensé. Mais Reginbard soutint que par l'envoi du cartel, il se constituait l'offenseur. Ses témoins se récrièrent qu'un soufflet, cependant, était la plus cruelle des offenses. Le citoyen épilogua sur les mots, un coup n'étant pas un soufflet. Enfin, on décida qu'on s'en rapporterait à des militaires, et les quatre témoins sortirent pour aller consulter des officiers dans une caserne quelconque. Ils s'arrêtèrent à celle du quai d'Orsay. Monsieur de Comines, ayant abordé deux capitaines, leur exposa la contestation. Les capitaines n'y comprirent goutte, embrouillée qu'elle fut par les phrases incidentes du citoyen. Bref, ils conseillèrent à ces messieurs d'écrire un procès-verbal, après quoi ils décideraient. Alors on se transporta dans un café, et même pour faire les choses plus discrètement, on désigna Sisi par H et Frédéric par un K. Puis on retourna à la caserne. Les officiers étaient sortis. Ils reparurent et déclarèrent qu'évidemment le choix des armes appartenait à Monsieur H. Tous s'en revinrent chez Sisi. Reginbard et Dussardier restèrent sur le trottoir. Le vicomte, en apprenant la solution, fut pris d'un si grand trouble qu'il se la fit répéter plusieurs fois. Et quand Monsieur de Comines en vint aux prétentions de Reginbard, il murmura « Cependant, n'étant pas loin en lui-même d'y obtempérer. » Puis il se laissa choir dans un fauteuil et déclara qu'il ne se battrait pas. « Hein? Comment ?» dit le baron. Alors Sisi s'abandonna à un flux labial désordonné. Il voulait se battre au tromblon, à bout portant, avec un seul pistolet. « Ou bien on mettra de l'arsenic dans un verre qui sera tiré au sort. Ça se fait quelquefois, je l'ai lu. » Le baron, peu endurant naturellement, le rudoya. « Ces messieurs attendent votre réponse. C'est indécent à la fin. Que prenez-vous, voyons? Est-ce l'épée ?» Le vicomte répliqua « oui » par un signe de tête. Et le rendez-vous fut fixé pour le lendemain à la porte Maillot à 7 heures juste. Dussardier étant contraint de s'en retourner à ses affaires, Reginbard alla prévenir Frédéric. On l'avait laissé toute la journée sans nouvelles. Son impatience était devenue intolérable. « Tant mieux » s'écria-t-il. Le citoyen fut satisfait de sa contenance. « On réclamait de nous des excuses, croiriez-vous? Ce n'était rien, un simple mot. Mais je les ai envoyés joliment boulés, comme je le devais, n'est-ce pas ?» « Sans doute, » dit Frédéric, tout en songeant qu'il eût mieux fait de choisir un autre témoin. Puis, quand il fut seul, il se répéta tout haut plusieurs fois « Je vais me battre. Tiens, je vais me battre. C'est drôle. » Et comme il marchait dans sa chambre, en passant devant sa glace, il s'aperçut qu'il était pâle. « Est-ce que j'aurais peur ?» Une angoisse abominable saisit à l'idée d'avoir peur sur le terrain. « Si j'étais tué, cependant, mon père est mort de la même façon. Oui, je serais tué. » Et tout à coup, il aperçut sa mère en robe noire. Des images incohérentes se déroulèrent dans sa tête. Sa propre lâcheté l'exaspéra. Il fut pris d'un paroxysme de bravoure, d'une soif carnassière. Un bataillon ne l'eût pas fait reculer. Cette fièvre calmée, il se sentit, avec joie, inébranlable. Pour se distraire, il se rendit à l'opéra où l'on donnait un ballet. Il écouta la musique, lorgna les danseuses et but un verre de punch pendant l'entracte. Mais, en rentrant chez lui, la vue de son cabinet, de ses meubles, où il se retrouvait peut-être pour la dernière fois, lui causa une faiblesse. Il descendit dans son jardin. Les étoiles brillaient, il les contempla. L'idée de se battre pour une femme le grandissait à ses yeux, l'ennoblissait. Puis il alla se coucher tranquillement. Il n'en fut pas de même de Sisi. Après le départ du baron, Joseph avait tâché de remonter son moral, et comme le vicomte demeurait froid. « Pourtant, mon brave, si tu préfères en rester là, j'irai le dire. » Zizine osa répondre « Certainement. » Mais il en voulut à son cousin de ne pas lui rendre ce service sans en parler. Il souhaita que Frédéric, pendant la nuit, mourût d'une attaque d'apoplexie, ou qu'une émeute survenant, il y eut le lendemain assez de barricades pour fermer tous les abords du bois de Boulogne, et qu'un événement empêcha un des témoins de s'y rendre, car le duel, faute de témoins, manquerait. Il avait envie de se sauver par un train express n'importe où. Il regretta de ne pas savoir la médecine pour prendre quelque chose, qui, sans exposer ses jours, ferait croire à sa mort. Il arriva jusqu'à désirer être malade, gravement. Afin d'avoir un conseil, un secours, il envoya chercher M. Désonnet. L'excellent homme était retourné en Saintonge sur une dépêche lui apprenant l'indisposition d'une de ses filles. Cela parut de mauvais augure à Sizi. Heureusement que M. Vezou, son précepteur, vint le voir. Alors il s'épancha. « Comment faire, mon Dieu? Comment faire ?»« Moi, à votre place, monsieur le comte, je paierai un fort de la Halle pour lui flanquer une raclée. »« Il saurait toujours de qui ça vient, » reprit Sizi. Et de temps à autre, il poussait un gémissement, puis « Mais est-ce qu'on a le droit de se battre en duel ?»«
C'est un reste de barbarie, que voulez-vous ?»
Par complaisance, le pédagogue s'invita lui-même à dîner. Son élève ne mangea rien et, après le repas, sentit le besoin de faire un tour. Il dit en passant devant une église « Si nous entrions un peu, pour voir ?» M. Vezou ne demanda pas mieux et même lui présenta de l'eau bénite. C'était le mois de Marie, des fleurs couvraient l'autel, des voix chantaient, l'orgue résonnait. Mais il lui fut impossible de prier, les pompes de la religion lui inspirant des idées de funérailles. Il entendait comme des bourdonnements de De Profundis. « Allons-nous-en, je ne me sens pas bien. » Ils employèrent toute la nuit à jouer aux cartes. Le vicomte s'efforça de perdre afin de conjurer la mauvaise chance, ce dont M. Vezou profita. Enfin, au petit jour, Sizi, qui n'en pouvait plus, s'affaissa sur le tapis vert et eut un sommeil plein de songes désagréables. Si le courage, pourtant, consiste à vouloir dominer sa faiblesse, le vicomte fut courageux, car, à la vue de ses témoins qui venaient le chercher, il se roidit de toutes ses forces, la vanité lui faisant comprendre qu'une reculade le perdrait. Monsieur de Comin le complimenta sur sa bonne mine. Mais, en route, le bercement du fiacre et la chaleur du soleil matinal l'énervèrent. Son énergie était retombée. Il ne distinguait même plus où l'on était. Le baron se divertit à augmenter sa frayeur en parlant du « cadavre » et de la manière de le rentrer en ville, clandestinement. Joseph donnait la réplique. Tous deux, jugeant l'affaire ridicule, étaient persuadés qu'elle s'arrangerait. Sizi gardait sa tête sur sa poitrine. Il la releva doucement et fit observer qu'on n'avait pas pris de médecin.
« C'est inutile, » dit le baron.
« Il n'y a pas de danger, alors ?» Joseph répliqua d'un ton grave. « Espérons-le. » Et personne dans la voiture ne parla plus. À 7h10, on arriva devant la porte Maillot. Frédéric et ses témoins s'y trouvaient, habillés de noir tous les trois. Regimbard, au lieu de cravate, avait un col de crin comme un troupier, et il portait une espèce de boîte longue à violon, spéciale pour ce genre d'aventure. On échangea froidement un salut, puis tous s'enfoncèrent dans le bois de Boulogne, par la route de Madrid, afin d'y trouver une place convenable. Regimbard dit à Frédéric, qui marchait entre lui et Dussardier, « Eh bien, et cette venette, qu'en fait-on? Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je connais ça. La crainte est naturelle à l'homme. » Puis à voix basse, « Ne fumez plus, ça amollit. » Frédéric jeta son cigare qui le gênait et continua d'un pied ferme. Le vicomte avançait par derrière, appuyé sur le bras de ses deux témoins. De rares passants les croisaient. Le ciel était bleu et on entendait par moments des lapins bondir. Au détour d'un sentier, une femme en madras causait avec un homme en blouse, et dans la grande avenue sous les marronniers, des domestiques en veste de toile promenaient leurs chevaux. Sisy se rappelait les jours heureux où, monté sur son alezan et le lorgnon dans l'œil, il chevauchait à la portière des calèches. Ses souvenirs renforçaient son angoisse. Une soif intolérable le brûlait. La susurration des mouches se confondait avec le battement de ses artères. Ses pieds enfonçaient dans le sable, et il lui semblait qu'il était en train de marcher depuis un temps infini. Les témoins, sans s'arrêter, fouillaient de l'œil les deux bords de la route. On délibéra si l'on irait à la croix Catelan ou sous les murs de Bagatelle. Enfin, on prit à droite, et on s'arrêta dans une espèce de quiconce entre des pins. L'endroit fut choisi de manière à répartir également le niveau du terrain. On marqua les deux places où les adversaires devaient se poser. Puis, Regimbard ouvrit sa boîte. Elle contenait, sur un capitonnage de basane rouge, quatre épées charmantes, creuses au milieu, avec des poignées garnies de filigrane. Un rayon lumineux, traversant les feuilles, tomba dessus, et elles parurent à Sisy briller comme des vipères d'argent sur une mare de sang. Le citoyen fit voir qu'elles étaient de longueur pareille. Il prit la troisième pour lui-même, afin de séparer les combattants en cas de besoin. Monsieur de Comin tenait une canne. Il y eut un silence. On se regarda, toutes les figures avaient quelque chose d'effaré ou de cruel. Frédéric avait mis bas sa redingote et son gilet. Joseph aida Sisy à faire de même. Sa cravate étant retirée, on aperçut à son cou une médaille bénite. Cela fit sourire de pitié Regimbard. Alors, monsieur de Comin, pour laisser à Frédéric encore un moment de réflexion, tâcha d'élever des chicanes. Il réclama le droit de mettre un gant, celui de saisir l'épée de son adversaire avec la main gauche. Regimbard, qui était pressé, ne s'y refusa pas. Enfin, le baron, s'adressant à Frédéric, « Tout dépend de vous, monsieur. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. » Dussardier l'approuvait du geste. Le citoyen s'indigna. « Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards, fichtre, en garde ?» Les adversaires étaient l'un devant l'autre, leurs témoins de chaque côté. Il cria le signal. « Allons !» Sisy devint effroyablement pâle. Sa lame tremblait par le bout, comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent, il tomba sur le dos, évanoui. Joseph le releva. Et tout en lui poussant sous les narines un flacon, il le secouait fortement. Le vicomte rouvrit les yeux, puis tout à coup bondit comme un furieux sur son épée. Frédéric avait gardé la sienne, et il l'attendait, l'œil fixe, la main haute. « Arrêtez ! Arrêtez !» cria une voix qui venait de la route en même temps que le bruit d'un cheval au galop. Et la capote d'un cabriolet cassait les branches. Un homme, penché en dehors, agitait un mouchoir et criait toujours « Arrêtez ! Arrêtez !» Monsieur de Comin, croyant à une intervention de la police, leva sa canne. « Finissez donc, le vicomte saigne !»« Moi ?» dit Sisy. En effet, il s'était, dans sa chute, écorché le pouce de la main gauche. « Mais c'est en tombant !» ajouta le citoyen. Le baron feignit de ne pas entendre. Arnoux avait sauté du cabriolet. « J'arrive trop tard ? Non, Dieu soit loué !» Il tenait Frédéric à plein bras, le palpait, lui couvrait le visage de baisers. « Je sais le motif. Vous avez voulu défendre votre vieille amie. C'est bien cela, c'est bien. Jamais je ne l'oublierai. Comme vous êtes bon. Ah, cher enfant !» Il le contemplait et versait des larmes, tout en ricanant de bonheur. Le baron se tourna vers Joseph. « Je crois que nous sommes de trop dans cette petite fête de famille.
C'est fini, n'est-ce pas, messieurs ?
Vicomte, mettez votre bras en écharpe. Tenez, voilà mon foulard. » Puis, avec un geste impérieux,
« Allons, pas de rancune, cela se doit. »
Les deux combattants se serrèrent la main, mollement. Le vicomte, monsieur de Comin et Joseph disparurent d'un côté, et Frédéric s'en alla de l'autre avec ses amis. Comme le restaurant de Madrid n'était pas loin, Arnoux proposa de s'y rendre pour boire un verre de bière.
« On pourrait même déjeuner, » dit Regimbard.
Mais Dussardier n'en ayant pas le loisir, ils se bornèrent à un rafraîchissement dans le jardin. Tous éprouvaient cette béatitude qui suit les dénouements heureux. Le citoyen, cependant, était fâché qu'on eût interrompu le duel au bon moment. Arnoux en avait eu connaissance par un nommé Compin, ami de Regimbard, et dans un élan de cœur, il était accouru pour l'empêcher, croyant du reste en être la cause. Il prit à Frédéric de lui fournir là-dessus quelques détails. Frédéric, ému par l'épreuve de sa tendresse, se fit scrupule d'augmenter son illusion.
« De grâce, n'en parlons plus !»
Arnoux trouva cette réserve fort délicate. Puis, avec sa légèreté ordinaire, passant à une autre idée,
« Quoi de neuf, citoyen ?»
Et ils se mirent à causer traite, échéance. Afin d'être plus commodément, ils allèrent même chuchoter à l'écart sur une autre table. Frédéric distingua ces mots.
« Vous allez me souscrire. »«
Oui, mais vous, bien entendu. Je l'ai négocié enfin pour 300. »«
Jolie commission, ma foi. »
Bref, il était clair qu'Arnoux tripotait avec le citoyen beaucoup de choses. Frédéric songea à lui rappeler ses 15 000 francs. Mais sa démarche récente interdisait les reproches, même les plus doux. D'ailleurs, il se sentait fatigué. L'endroit n'était pas convenable, il remit cela à un autre jour. Arnoux, assis à l'ombre d'un troène, fumait d'un air hilar. Il leva les yeux vers les portes des cabinets donnant toutes sur le jardin et dit qu'il était venu là autrefois, bien souvent.
« Pas seul, sans doute, » répliqua le citoyen.
« Parbleu !
Quel polisson vous faites, un homme marié !»«
Eh bien, et vous donc ?» reprit Arnoux.
Et avec un sourire indulgent,
« Je suis même sûr que ce gredin-là possède quelque part une chambre où il reçoit des petites filles. »
Le citoyen confessa que c'était vrai, par un simple haussement de sourcils. Alors, ces deux messieurs exposèrent leur goût. Arnoux préférait maintenant la jeunesse, les ouvrières. Regimbard détestait les mijaurés et tenait avant tout au positif. La conclusion fournie par le marchand de faïence fut qu'on ne devait pas traiter les femmes sérieusement.
« Cependant, il aime la sienne, » songeait Frédéric en s'en retournant,
et il le trouvait un malhonnête homme. Il lui en voulait de ce duel, comme si c'eût été pour lui qu'il avait tout à l'heure risqué sa vie. Mais il était reconnaissant à Dussardier de son dévouement. Le commis, sur ses instances, arriva bientôt à lui faire une visite tous les jours. Frédéric lui prêtait des livres, Thiers, Dulaure, Barante, les Girondins de Lamartine. Le brave garçon l'écoutait avec recueillement et acceptait ses opinions comme celles d'un maître. Il arriva un soir, tout effaré. Le matin, sur le boulevard, un homme qui courait à perdre haleine s'était heurté contre lui, et l'ayant reconnu pour un ami de Sénécal, lui avait dit
« On vient de le prendre, je me sauve !»
Rien de plus vrai. Dussardier avait passé la journée aux informations. Sénécal était sous les verrous, comme prévenu d'attentats politiques. Fils d'un contremaître, né à Lyon et ayant eu pour professeur un ancien disciple de Chalier, dès son arrivée à Paris, il s'était fait recevoir de la Société des Familles. Ses habitudes étaient connues. La police le surveillait. Il s'était battu dans l'affaire de mai 1839 et depuis lors se tenait à l'ombre, mais s'exaltant de plus en plus. Fanatique d'Alibaud, mêlant ses griefs contre la Société
à ceux du peuple contre la monarchie, et s'éveillant chaque matin avec l'espoir d'une révolution, qui, en 15 jours ou 1 mois, changerait le monde. Enfin, écœuré par la mollesse de ses frères, furieux des retards qu'on opposait à ses rêves et désespérant de la patrie, il était entré comme chimiste dans le complot des bombes incendiaires. Et on l'avait surpris portant de la poudre qu'il allait essayer à Montmartre, tentative suprême pour établir la République. Dussardier ne la chérissait pas moins, car elle signifiait, croyait-il, affranchissement et bonheur universel. Un jour, à 15 ans, dans la rue Transnonain, devant la boutique d'un épicier, il avait vu des soldats, la baïonnette rouge de sang, avec des cheveux collés à la crosse de leur fusil. Depuis ce temps-là, le gouvernement l'exaspérait comme l'incarnation même de l'injustice. Il confondait un peu les assassins et les gendarmes. Un mouchard valait, à ses yeux, un parricide. Tout le mal répandu sur la terre, il l'attribuait naïvement au pouvoir. Et il le haïssait d'une haine essentielle, permanente, qui lui tenait tout le cœur et raffinait sa sensibilité. Les déclamations de Sénécal l'avaient ébloui. Qu'il fût coupable ou non, et sa tentative odieuse, peu importait. Du moment qu'il était la victime de l'autorité, on devait le servir. Les pères le condamneront, certainement, puis il sera emmené dans une voiture cellulaire, comme un galérien, et on l'enfermera au Mont-Saint-Michel, où le gouvernement les fait mourir. Austen est devenu fou, Steuben s'est tué. Pour transférer Barbès dans un cachot, on l'a tiré par les jambes, par les cheveux. On lui piétinait le corps, et sa tête rebondissait à chaque marche tout le long de l'escalier. Quelle abomination, les misérables! Des sanglots de colère l'étouffaient, et il tournait dans la chambre comme pris d'une grande angoisse. « Il faudrait faire quelque chose, cependant. Voyons, moi, je ne sais pas. Et si nous tâchions de le délivrer, hein? Pendant qu'on le mènera au Luxembourg, on peut se jeter sur l'escorte dans le couloir. Une douzaine d'hommes déterminés, ça passe partout. » Il y avait tant de flammes dans ses yeux que Frédéric en tressaillit. Sénécal lui apparut plus grand qu'il ne croyait. Il se rappela ses souffrances, sa vie austère. Sans avoir pour lui l'enthousiasme de Dussardier, il éprouvait néanmoins cette admiration qu'inspire tout homme se sacrifiant à une idée. Il se disait que, s'il l'eût secouru, Sénécal n'en serait pas là. Et les deux amis cherchèrent laborieusement quelques combinaisons pour le sauver. Il leur fut impossible de parvenir jusqu'à lui. Frédéric s'enquérait de son sort dans les journaux, et pendant 3 semaines fréquenta les cabinets de lecture. Un jour, plusieurs numéros du Flambard lui tombèrent sous la main. L'article de fond, invariablement, était consacré à démolir un homme illustre. Venaient ensuite les Nouvelles du Monde, les Cancans. Puis, on blaguait l'Odéon, Carpentras, la pisciculture et les condamnés à mort quand il y en avait. La disparition d'un paquebot fournit matière à plaisanterie pendant 1 an. Dans la 3e colonne, un courrier des arts donnait, sous forme d'anecdotes ou de conseils, des réclames de tailleurs avec des comptes rendus de soirées, des annonces de vente, des analyses d'ouvrages, traitant de la même encre un volume de verre et une paire de bottes. La seule partie sérieuse était la critique des petits théâtres, où l'on s'acharnait sur 2 ou 3 directeurs. Et les intérêts de l'art étaient invoqués à propos des décors des funambules ou d'une amoureuse des délassements. Frédéric allait rejeter tout cela quand ses yeux rencontrèrent un article intitulé « Une poulette entre 3 cocos ». C'était l'histoire de son duel, narré en style sémillant, gaulois. Il se reconnut sans peine, car il était désigné par cette plaisanterie, laquelle revenait souvent, un jeune homme du collège de Sens et qui en manque. On le représentait même comme un pauvre diable de provincial, un obscur nigaud tâchant de frayer avec les grands seigneurs. Quant au vicomte, il avait le beau rôle, d'abord dans le souper, où il s'introduisait de force, ensuite dans le pari, puisqu'il emmenait la demoiselle, et finalement sur le terrain, où il se comportait en gentilhomme. La bravoure de Frédéric n'était pas niée, précisément, mais on faisait comprendre qu'un intermédiaire, le protecteur lui-même, était survenu juste à temps. Le tout se terminait par cette phrase, grosse peut-être de perfidie. « D'où vient leur tendresse ? Problème. Et comme dit Basile, qui diable est-ce qu'on trompe ici ?» C'était, sans le moindre doute, une vengeance d'Ussonnet contre Frédéric pour son refus des 5 000 francs. Que faire ? S'il lui en demandait raison, le bohème protesterait de son innocence, et il n'y gagnerait rien. Le mieux était d'avaler la chose silencieusement. Personne, après tout, ne lisait le Flambard. En sortant du cabinet de lecture, il aperçut du monde devant la boutique d'un marchand de tableaux. On regardait un portrait de femme, avec cette ligne écrite au bas en lettres noires. « Mademoiselle Rose Annette Bron, appartenant à Monsieur Frédéric Moreau de Nogent. » C'était bien elle, ou à peu près, vue de face, les seins découverts, les cheveux dénoués, et tenant dans ses mains une bourse de velours rouge, tandis que par derrière, un paon avançait son bec sur son épaule, en couvrant la muraille de ses grandes plumes en éventail. Pellerin avait fait cette exhibition pour contraindre Frédéric au paiement, persuadé qu'il était célèbre et que tout Paris, s'animant en sa faveur, allait s'occuper de cette misère. Était-ce une conjuration ? Le peintre et le journaliste avaient-ils monté leur coup ensemble ? Son duel n'avait rien empêché. Il devenait ridicule, tout le monde se moquait de lui. 3 jours après, à la fin de juin, les actions du Nord ayant fait 15 francs de hausse, comme il en avait acheté 2 000 l'autre mois, il se trouva gagné 30 000 francs. Cette caresse de la fortune lui redonna confiance. Il se dit qu'il n'avait besoin de personne, que tous ses embarras venaient de sa timidité, de ses hésitations. Il aurait dû commencer avec la maréchale brutalement, refuser Ussonnet dès le premier jour, ne pas se compromettre avec Pellerin. Et, pour montrer que rien ne le gênait, il se rendit chez Madame Dambreuse à une de ses soirées ordinaires. Au milieu de l'antichambre, Martinon, qui arrivait en même temps que lui, se retourna. « Comment ? Tu viens ici, toi ?» avec l'air surpris et même contrarié de le voir. « Pourquoi pas ?» Et tout en cherchant la cause d'un tel abord, Frédéric s'avança dans le salon. La lumière était faible, malgré les lampes posées dans les coins, car les 3 fenêtres, grandes ouvertes, dressaient parallèlement 3 larges carrés d'ombre noire. Des jardinières, sous les tableaux, occupaient jusqu'à hauteur d'homme les intervalles de la muraille, et une théière d'argent avec un samovar se mirait au fond dans une glace. Un murmure de voix discrète s'élevait. On entendait des escarpins craquer sur le tapis. Il distingua des habits noirs, puis une table ronde éclairée par un grand abat-jour. 7 ou 8 femmes en toilette d'été, et un peu plus loin, Madame Dambreuse dans un fauteuil à bascule. Sa robe de taffetas lilas avait des manches à crever, d'où s'échappaient des bouillons de mousseline, le ton doux de l'étoffe se mariant à la nuance de ses cheveux. Et elle se tenait quelque peu renversée en arrière, avec le bout de son pied sur un coussin, tranquille comme une œuvre d'art pleine de délicatesse, une fleur de haute culture. Monsieur Dambreuse et un vieillard à chevelure blanche se promenaient dans toute la longueur du salon. Quelques-uns s'entretenaient au bord des petits divans, ça et là les autres, debout, formaient un cercle au milieu. Ils causaient de votes, d'amendements, de sous-amendements, du discours de Monsieur Grandin, de la République de Monsieur Benoît. Le tiers parti décidément allait trop loin. Le centre-gauche aurait dû se souvenir un peu mieux de ses origines. Le ministère avait reçu de graves atteintes. Ce qui devait rassurer pourtant, c'est qu'on ne lui voyait point de successeur. Bref, la situation était complètement analogue à celle de 1834. Et comme ces choses ennuyaient Frédéric, il se rapprocha des femmes. Martineau était près d'elle, debout, le chapeau sous le bras, la figure de trois quarts, et si convenable qu'il ressemblait à de la porcelaine de Sèvres. Il prit une revue des deux mondes, traînant sur la table, entre une imitation et un annuaire de Gotha, et jugea de haut un poète illustre, dit qu'il allait aux conférences de Saint-François, se plaignit de son larynx, avalait de temps à autre une boule de gomme, et cependant parlait musique, faisait le léger. Mademoiselle Cécile, la nièce de M. d'Ambreuse, qui se brodait une paire de manchettes, le regardait en dessous avec ses prunelles d'un bleu pâle. Et Miss John, l'institutrice année Camus, en avait lâché sa tapisserie. Toutes deux paraissaient s'écrier intérieurement « Qu'il est beau !» Madame d'Ambreuse se tourna vers lui. « Donnez-moi donc mon éventail qui est sur cette console là-bas. Vous vous trompez, l'autre !» Elle se leva, et comme il revenait, ils se rencontrèrent au milieu du salon, face à face. Elle lui adressa quelques mots, vivement, des reproches sans doute, à en juger par l'expression altière de sa figure. Martineau tâchait de sourire, puis il alla se mêler au conciliabule des hommes sérieux. Madame d'Ambreuse reprit sa place, et se penchant sur le bras de son fauteuil, elle dit à Frédéric « J'ai vu quelqu'un avant-hier qui m'a parlé de vous. « Monsieur de Sisy, vous le connaissez, n'est-ce pas ?»«
Oui, un peu. »
Tout à coup, Madame d'Ambreuse s'écria « Duchesse, ah, quel bonheur !» Et elle s'avança jusqu'à la porte, au-devant d'une vieille petite dame qui avait une robe de taffetas carmélite et un bonnet de guipure à longues pattes. Fille d'un compagnon d'exil du comte d'Artois, et veuve d'un maréchal de l'Empire, créé pair de France en 1830, elle tenait à l'ancienne cour comme à la nouvelle, et pouvait obtenir beaucoup de choses. Ceux qui causaient debout s'écartèrent, puis reprirent leur discussion. Maintenant, elle roulait sur le paupérisme, dont toutes les peintures, d'après ces messieurs, étaient fort exagérées. « Cependant, objecta Martineau, la misère existe, avouons-le. » Mais le remède ne dépend ni de la science ni du pouvoir. C'est une question purement individuelle. Quand les basses classes voudront se débarrasser de leurs vices, elles s'affranchiront de leurs besoins. Que le peuple soit plus moral et il sera moins pauvre. Suivant M. d'Ambreuse, on n'arriverait à rien de bien sans une surabondance du capital. Donc, le seul moyen possible était de confier, comme le voulaient du reste les Saint-Simoniens. Mon Dieu, ils avaient du bon, soyons justes envers tout le monde. De confier, dis-je, la cause du progrès à ceux qui peuvent accroître la fortune publique. Insensiblement, on aborda les grandes exploitations industrielles, les chemins de fer, la houille. Et M. d'Ambreuse, s'adressant à Frédéric, lui dit tout bas « Vous n'êtes pas venu pour notre affaire ?» Frédéric allégua une maladie, mais sentant que l'excuse était trop bête, « D'ailleurs, j'ai eu besoin de mes fonds. »« Pour acheter une voiture ?» reprit Madame d'Ambreuse qui passait près de lui une tasse de thé à la main, et elle le considéra pendant une minute, la tête un peu tournée sur son épaule. Elle le croyait l'amant de Rosanette. L'allusion était claire. Il sembla même à Frédéric que toutes les dames le regardaient de loin, en chuchotant. Pour mieux voir ce qu'elle pensait, il se rapprocha d'elle encore une fois. De l'autre côté de la table, Martineau, auprès de Mademoiselle Cécile, feuilletait un album. C'était des lithographies représentant des costumes espagnols. Il lisait tout haut les légendes « Femme de Séville »,« Jardinier de Valence »,« Picador andalou ». Et descendant une fois jusqu'au bas de la page, il continua d'une haleine. Jacques Arnoux, éditeur. « Un de tes amis, hein ?»« C'est vrai, dit Frédéric, blessé par son air. Madame d'Ambreuse reprit. « En effet, vous êtes venue un matin pour une maison, je crois. Oui, une maison appartenant à sa femme. » Cela signifiait « C'est votre maîtresse. » Il rougit jusqu'aux oreilles. Et monsieur d'Ambreuse, qui arrivait au même moment, ajouta « Vous paraissiez même vous intéresser beaucoup à eux. » Ces derniers mots achevèrent de décontenancer Frédéric. Son trouble, que l'on voyait, pensait-il, allait confirmer les soupçons. Quand monsieur d'Ambreuse lui dit de plus près, d'un ton grave « Vous ne faites pas d'affaires ensemble, je suppose ?» Il protesta par des secousses de tête multipliées, sans comprendre l'intention du capitaliste, qui voulait lui donner un conseil. Il avait envie de partir. La peur le retint de sembler lâche. Un domestique enlevait les tasses de thé. Madame d'Ambreuse causait avec un diplomate en habit bleu. Deux jeunes filles, rapprochant leur front, se faisaient voir une bague. Les autres, assises en demi-cercle sur des fauteuils, remuaient doucement leurs blancs visages, bordés de chevelures noires ou blondes. Personne, enfin, ne s'occupait de lui. Frédéric tourna les talons, et par une suite de longs zigzags, il avait presque gagné la porte, quand, passant près d'une console, il remarqua dessus, entre un vase de Chine et la boiserie, un journal plié en deux. Il le tira quelque peu, et lut ces mots, le flambard. Qui l'avait apporté? Sisi, pas un autre, évidemment. Qu'importait du reste? Ils allaient croire, tous déjà croyaient peut-être à l'article. Pourquoi cet acharnement? Une ironie silencieuse l'enveloppait. Il se sentait comme perdu dans un désert. Mais la voix de Martinon s'éleva. À propos d'Arnoux, j'ai lu parmi les prévenus des bombes incendiaires le nom d'un de ses employés. Sénécal, est-ce le nôtre ? Lui-même, dit Frédéric. Martinon répéta en criant très haut. Comment ? Notre Sénécal ? Notre Sénécal ! Alors on le questionna sur le complot. Sa place d'attaché au parquet devait lui fournir des renseignements. Il confessa n'en pas avoir. Du reste, il connaissait fort peu le personnage, l'ayant vu deux ou trois fois seulement, et le tenait en définitive pour un assez mauvais drôle. Frédéric, indigné, s'écria « Pas du tout, c'est un très honnête garçon !»« Cependant, monsieur, dit un propriétaire, on n'est pas honnête quand on conspire !» La plupart des hommes qui étaient là avaient servi au moins quatre gouvernements. Et ils auraient vendu la France ou le genre humain pour garantir leur fortune, s'épargner un malaise, un embarras, ou même par simple bassesse, adoration instinctive de la force. Tous déclarèrent les crimes politiques inexcusables. Il fallait plutôt pardonner à ceux qui provenaient du besoin. Et on ne manqua pas de mettre en avant l'éternel exemple du père de famille, volant l'éternel morceau de pain chez l'éternel boulanger. Un administrateur s'écria même « Moi, monsieur, si j'apprenais que mon frère conspire, je le dénoncerais !» Frédéric invoqua le droit de résistance, et se rappelant quelques phrases que lui avait dites Deslauriers, il cita Desholm, Blackstone, le Bill des droits en Angleterre et l'article 2 de la Constitution de 91. C'était même en vertu de ce droit-là qu'on avait proclamé la déchéance de Napoléon. Il avait été reconnu en 1830, inscrit en tête de la charte. D'ailleurs, quand le souverain manque au contrat, la justice veut qu'on le renverse. « Mais c'est abominable !» exclama la femme d'un préfet. Toutes les autres se taisaient, vaguement épouvantées, comme si elles eussent entendu le bruit des balles. Madame d'Ambreuse se balançait dans son fauteuil et l'écoutait parler en souriant. Un industriel, ancien carbonaro, tâcha de lui démontrer que les d'Orléans étaient une belle famille, sans doute. Il y avait des abus. « Eh bien, alors ? Mais on ne doit pas les dire, cher monsieur !» Si vous saviez comme toutes ces criailleries de l'opposition nuisent aux affaires. Je me moque des affaires, reprit Frédéric. La pourriture de ces vieux l'exaspérait, et, emporté par la bravoure qui saisit quelquefois les plus timides, il attaqua les financiers, les députés, le gouvernement, le roi, prit la défense des Arabes et débitait beaucoup de sottises. Quelques-uns l'encourageaient ironiquement. « Allez donc, continuez !» tandis que d'autres murmuraient « Diable, quelle exaltation !» Enfin, il jugea convenable de se retirer. Et comme il s'en allait, M. d'Ambreuse lui dit, faisant allusion à la place de secrétaire, « Rien n'est terminé encore, mais dépêchez-vous. » Et Mme d'Ambreuse, « À bientôt, n'est-ce pas ?» Frédéric jugea leur adieu une dernière moquerie. Il était déterminé à ne jamais revenir dans cette maison, à ne plus fréquenter tous ces gens-là. Il croyait les avoir blessés, ne sachant pas quel large fond d'indifférence le monde possède. Ces femmes surtout l'indignaient. Pas une qui l'eût soutenu, même du regard. Il leur en voulait de ne pas les avoir émues. Quant à Madame d'Ambreuse, il lui trouvait quelque chose à la fois de langoureux et de sec, qui empêchait de la définir par une formule. Avait-elle un amant? Quel amant? Était-ce le diplomate ou un autre? Martinon peut-être? Impossible. Cependant, il éprouvait une espèce de jalousie contre lui, et envers elle, une malveillance inexplicable.
Dussardier, venu ce soir-là comme d'habitude, l'attendait. Frédéric avait le cœur gonflé. Il le dégorgea, et ses griefs, bien que vagues et difficiles à comprendre, attristèrent le brave commis. Il se plaignait même de son isolement. Dussardier, en hésitant un peu, proposa de se rendre chez Deslauriers. Frédéric, au nom de l'avocat, fut pris par un besoin extrême de le revoir. Sa solitude intellectuelle était profonde, et la compagnie de Dussardier insuffisante. Il lui répondit d'arranger les choses comme il voudrait. Deslauriers également sentait depuis leur brouille une privation dans sa vie. Il céda sans peine à des avances cordiales. Tous deux s'embrassèrent, puis se mirent à causer de choses indifférentes. La réserve de Deslauriers attendrit Frédéric, et, pour lui faire une sorte de réparation, il lui conta le lendemain sa perte de 15 000 francs, sans dire que ces 15 000 francs lui étaient primitivement destinés. L'avocat n'en douta pas, néanmoins. Cette mésaventure, qui lui donnait raison dans ses préjugés contre Arnoux, désarma tout à fait sa rancune, et il ne parla point de l'ancienne promesse. Frédéric, trompé par son silence, crut qu'il l'avait oublié. Quelques jours après, il lui demanda s'il n'existait pas de moyen de rentrer dans ses fonds. On pouvait discuter les hypothèques précédentes, attaquer Arnoux comme stélionataire, faire des poursuites au domicile contre la femme. « Non, non, pas contre elle !» s'écria Frédéric. Et, cédant aux questions de l'ancien clerc, il avoua la vérité. Deslauriers fut convaincu qu'il ne la disait pas complètement, par délicatesse sans doute. Ce défaut de confiance le blessa. Ils étaient, cependant, aussi liés qu'autrefois, et même ils avaient tant de plaisir à se trouver ensemble que la présence de Dussardier les gênait. Sous prétexte de rendez-vous, ils arrivèrent à s'en débarrasser peu à peu. Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. On les franchit comme des ponts et l'on va plus loin. Frédéric ne cachait rien à son ancien ami. Il lui dit l'affaire des houilles avec la proposition de M. d'Ambreuse. L'avocat devint rêveur. C'est drôle. Il faudrait pour cette place quelqu'un d'assez fort en droit. Mais tu pourras m'aider, reprit Frédéric. Oui, tiens, parbleu, certainement. Dans la même semaine, il lui montra une lettre de sa mère. Madame Moreau s'accusait d'avoir mal jugé M. Roque, lequel avait donné de sa conduite des explications satisfaisantes. Puis elle parlait de sa fortune et de la possibilité, pour plus tard, d'un mariage avec Louise.
Ce ne serait peut-être pas bête, dit Deslauriers. Frédéric s'en rejeta loin. Le père Roch, d'ailleurs, était un vieux filou. Cela n'y faisait rien, selon l'avocat. À la fin de juillet, une baisse inexplicable fit tomber les actions du Nord. Frédéric n'avait pas vendu les siennes. Il perdit d'un seul coup 60 000 francs. Ses revenus se trouvaient sensiblement diminués. Il devait ou restreindre sa dépense, ou prendre un état, ou faire un beau mariage. Alors, Deslauriers lui parla de Mademoiselle Roch. Rien ne l'empêchait d'aller voir un peu les choses par lui-même. Frédéric était un peu fatigué, la province et la maison maternelle le délasseraient. Il partit. L'aspect des rues de Nogent, qu'il monta sous le clair de la lune, le reporta dans de vieux souvenirs, et il éprouvait une sorte d'angoisse, comme ceux qui reviennent après de longs voyages. Il y avait chez sa mère tous les habitués d'autrefois, messieurs Gamblin, Eudrat et Chambrillon, la famille Lebrun, ses demoiselles Auger, de plus le père Roch et en face de madame Moreau, devant une table de jeu, mademoiselle Louise. C'était une femme à présent. Elle se leva en poussant un cri. Tous s'agitèrent. Elle était restée immobile, debout, et les quatre flambeaux d'argent posés sur la table augmentaient sa pâleur. Quand elle se remit à jouer, sa main tremblait. Cette émotion flatta démesurément Frédéric, dont l'orgueil était malade. Il se dit « Tu m'aimeras, toi !» Et, prenant sa revanche des déboires qu'il avait essuyés là-bas, il se mit à faire le Parisien, le Lion, donna des nouvelles des théâtres, rapporta des anecdotes du monde, puisées dans les petits journaux. Enfin, éblouit ses compatriotes. Le lendemain, madame Moreau s'étendit sur les qualités de Louise, puis énuméra les bois, les fermes qu'elle posséderait. La fortune de monsieur Roch était considérable. Il l'avait acquise en faisant des placements pour monsieur d'Ambreuse, car il prêtait à des personnes pouvant offrir de bonnes garanties hypothécaires, ce qui lui permettait de demander des suppléments ou des commissions. Le capital, grâce à une surveillance active, ne risquait rien. D'ailleurs, le père Roch n'hésitait jamais devant une saisie. Puis il rachetait à bas prix les biens hypothéqués, et M. d'Ambreuse, voyant ainsi rentrer ses fonds, trouvait ses affaires très bien faites. Mais cette manipulation extra-légale le compromettait vis-à-vis de son régisseur. Il n'avait rien à lui refuser. C'était sur ces instances qu'il avait si bien accueilli Frédéric. En effet, le père Roch couvait au fond de son âme une ambition. Il voulait que sa fille fût comtesse, et pour y parvenir, sans mettre en jeu le bonheur de son enfant, il ne connaissait pas d'autre jeune homme que celui-là. Par la protection de M. d'Ambreuse, on lui ferait avoir le titre de son aïeul, madame Moreau étant la fille d'un comte de Fouvent, apparentée d'ailleurs aux plus vieilles familles champenoises, les Lavernade, les Détrigny. Quant aux Moreau, une inscription gothique, près des moulins de Villeneuve-l'Archevêque, parlait d'un Jacob Moreau qui les avait réédifiés en 1596, et la tombe de son fils, Pierre Moreau, premier écuyer du roi sous Louis XIV, se voyait dans la chapelle Saint-Nicolas. Tant d'honorabilité fascinait M. Roch, fils d'un ancien domestique. Si la couronne comtale ne venait pas, il s'en consolerait sur autre chose, car Frédéric pouvait parvenir à la députation quand M. d'Ambreuse serait élevé à la pairie, et alors l'aider dans ses affaires, lui obtenir des fournitures, des concessions. Le jeune homme lui plaisait, personnellement. Enfin, il le voulait pour gendre, parce que, depuis longtemps, il s'était féru de cette idée qui ne faisait que s'accroître. Maintenant, il fréquentait l'église, et il avait séduit madame Moreau par l'espoir du titre, surtout. Elle s'était gardée cependant de faire une réponse décisive. Donc, 8 jours après, sans qu'aucun engagement eût été pris, Frédéric passait pour le futur de Mademoiselle Louise, et le père Roch, peu scrupuleux, les laissait ensemble quelquefois.